que s'ouvre à la fin de la semaine le mondial de l'auto, porte de Versailles à Paris. Nous allons parler aujourd'hui de la voiture de demain. Elle sera autonome, elle sera connectée, mais elle posera aussi quelques problèmes, hein, problèmes techniques, problèmes éthiques, problèmes économiques. Le chemin de la voiture autonome est une route pavée d'embûches. Où ira l'autonomie des voitures? C'est le problème que nous allons tenter de résoudre dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer ce modèle de voiture du futur et les problèmes qui lui sont afférents, nous avons le plaisir d'accueillir autour de la table de la méthode scientifique Fawzi Nachashibi. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche à l'INRIA, l'Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique, notamment sur les questions de robotique appliquée aux systèmes de transports intelligents. Nous sommes également en compagnie d'Arnaud de la Fortelle. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, vous, directeur du Centre de Robotique des Mines Paris Tech. Puisque c'est donc, je le disais, le mondial de l'auto ce week-end, dites-nous un peu quel type de nouveautés on s'attend à y voir en matière de voitures autonomes. Est-ce que vous savez ça, Fawzi Nachashibi?
Je pense que, comme dans tous les salons, nous allons certainement voir des véhicules plus intelligents, plus communicants, des véhicules bardés de capteurs, capables de naviguer dans l'environnement urbain, comme sur autoroute, de manière autonome. Donc de plus en plus, nous allons voir des véhicules un peu futuristes, un peu intelligents, du coup, et communicants.
Arnaud de la Fortelle ?
Oui, on va certainement voir des annonces, hein, et des prototypes dévoilés. Hein. On sait que Peugeot, Renault, comme beaucoup d'autres constructeurs au niveau mondial, travaillent, hein, sur ces prototypes de véhicules automatisés. Alors, ils ne sont pas encore prêts à être commercialisés demain, mais l'idée est là. Hein. La technique, hein, commence à se développer, donc on verra certainement, hein, des protos au salon, au mondial de l'automobile.
Alors, on a tendance à penser, et puis vous le dites, hein, on n'est pas encore à la phase de commercialisation. Pour autant, la voiture autonome, il y en a déjà quelques-unes qui circulent dans plusieurs pays depuis plusieurs mois déjà. C'est une réalité, la voiture autonome, Fawzi Nachashibi.
Oui, c'est une réalité. Nous avons également, par exemple, l'exemple de la Tesla, qui est vendue comme telle, comme véhicule avec pilote automatique à bord. Seulement, il faut pas oublier que ces véhicules sont vendus avec une utilisation conditionnée. C'est ce qu'on a oublié et c'est ce que les gens ont semblé oublier lorsqu'il y a eu le dernier accident, qui n'est pas d'ailleurs le premier, puisqu'avant il y a eu d'autres accidents faits par les véhicules de Google, mais qui n'ont pas été dévoilés.
Il faut dire qu'au mois de mars, il y a effectivement eu un accident mortel, le premier de l'histoire des voitures autonomes. Vous dites que cet usage, il est conditionné. Arnaud de la Fortelle, il est conditionné par quoi aujourd'hui? Où est-ce qu'on peut rouler avec des voitures autonomes? À quels endroits? Est-ce qu'il y a des procédés, des processus à respecter? Comment ça se passe?
Alors aujourd'hui, on est encore dans la phase de test, hein, c'est-à-dire que même, ça vient d'être rappelé, hein, si des véhicules semblent être complètement autonomes comme les Tesla, en fait, ils ne le sont pas. Donc aujourd'hui, les véhicules complètement autonomes, ceux de Google, ceux d'Audi, ceux de Mercedes, mais ceux aussi de Peugeot, ceux de Renault et Nissan, sont testés sur les routes, mais il y a toujours un, voire deux ingénieurs à l'intérieur de la voiture, donc on ne peut pas encore parler complètement de voiture sans conducteur, mais ces véhicules font des milliers de kilomètres, hein, aujourd'hui, sous la supervision des ingénieurs, hein, en mode autonome.
Il y a quelques initiatives, comme celle de la compagnie Uber à Pittsburgh, qui a lancé des taxis autonomes, donc ça commence de rien à rentrer dans le tissu de circulation urbain, Arnaud de la Fortelle.
Oui, alors Uber, c'est très intéressant parce que les conditions de circulation sont les mêmes. Ils ont eux aussi deux ingénieurs à l'avant, donc c'est des taxis, il n'y a pas un chauffeur, mais il y en a deux niveau ingénieur, donc on ne peut pas dire que ce soit une économie de coût pour le moment. Mais ce qui est très intéressant, c'est l'usage du véhicule autonome est complètement différent. Au lieu d'avoir simplement un véhicule avec chauffeur, votre véhicule, c'est un véhicule qui est public, n'importe qui peut l'emprunter. Et demain, c'est probablement une des révolutions qui nous attend, d'avoir un usage différent de la voiture. voiture.
Même en France, pas plus tard que le week-end dernier, dans le cadre de la journée sans véhicule à l'intérieur de Paris, la RATP a testé un véhicule autonome qui s'appelle le Easy Mile. Vous êtes au courant de cette initiative, Faouzi Nachachibi ?
Absolument, nous connaissons même parfaitement bien cette entreprise qui est quelque part issue ou dérivée de Robosoft, qui est issue d'INRIA. Alors EasyMile
qu'est-ce que c'est ?
A cette exclusivité de produire avec une autre société qui s'appelle Navia, également française d'ailleurs, des navettes automatisées. Alors ce sont des petits minibus, si on peut schématiser cela comme ça, équipés de capteurs qui permettent de faire des transports de masse en fait.
Mmh. Et donc, des transports en commun.
Des transports en commun. Donc l'objectif c'est de transporter les gens d'un point A à un point B de manière hautement automatisée. Mais, comme l'a dit mon collègue Arnaud, en fait, c'est toujours dans un environnement contrôlé.
C'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un derrière le volant pour récupérer le contrôle au cas où ?
Alors,
uniquement.
Aujourd'hui, la raison principale, c'est que c'est le manque de législation. C'est qu'on met déjà une personne dans le véhicule pour des raisons légales, pour autoriser ce véhicule déjà d'effectuer ses journeys, ses déplacements.
Ce voyage.
C'est
intéressant, le journey, c'était le terme qu'on employait pour l'exploration spatiale.
Et vous remarquez d'ailleurs que les tronçons, donc ces déplacements se font toujours sur des petits tronçons, dans un environnement contrôlé, maîtrisé aujourd'hui par l'opérateur.
Il faut préciser, puisque vous parlez de législation, qu'en France, le Conseil des ministres a autorisé les voitures sans chauffeur à circuler sur la voie publique il n'y a pas très longtemps, c'était le 10 août dernier, Arnaud de Lafortelle.
Oui, alors il y a eu plusieurs législations qui ont changé. Pour le 10 août, je devais être en vacances, donc j'ai dû zapper. Mais il y avait la Convention de Vienne qui interdisait les véhicules sans conducteur, et en particulier dans toute l'Europe, qui avait signé la Convention de Vienne sur l'usage des véhicules. Il faut savoir que les États-Unis, la Chine, le Japon, par exemple, n'avaient pas signé la Convention de Vienne. Donc eux pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Alors cette convention a été amendée au mois d'avril, et ce qui a ouvert la voie, effectivement, dans tous les pays, à des autorisations. Et alors les pays vont plus ou moins vite. La Suède, par exemple, est en train d'autoriser actuellement l'usage commercial des véhicules. Aujourd'hui, en France, on a le droit à l'usage expérimental.
Et comment ça se passe ? Quel est le panorama, justement, aujourd'hui, de la possibilité d'utilisation expérimentale ou commerciale de ces véhicules sans chauffeur ou de ces véhicules automatisés ? Faouzi Nachachibi.
Alors, si nous nous plaçons au niveau européen, il existe plusieurs législations. Malgré le fait que, enfin, les ministres des Transports ont essayé de converger, notamment dernièrement grâce à l'accord d'Amsterdam, qui encourage la promotion du véhicule électrique, du véhicule automatique, etc. Et dernièrement, le Conseil des ministres français qui a autorisé l'expérimentation de ces véhicules.
Donc l'expérimentation en France,
L'expérimentation, mais c'est en bonne voie parce que ça permet déjà d'ouvrir la voie à la certification. Donc on ne peut pas certifier des véhicules, les homologuer, si nous ne pouvons pas déjà les tester. Mais par contre, en Europe, il existe plusieurs pays, tels que la Finlande, les Pays-Bas, la Grèce, par exemple, qui, eux, autorisent déjà la circulation de ces véhicules. Alors, encore une fois, sous contrôle. C'est-à-dire qu'il peut y avoir... L'opérateur devrait mettre à disposition les moyens pour superviser ce qui se passe. En revanche, dans d'autres pays, par exemple l'Angleterre, est en train d'aller trop vite aussi vers cette voie-là.
Trop vite, pourquoi trop ?
Trop vite parce que eux, ils veulent, en l'absence de législation particulière, et puis maintenant avec le Brexit, je ne sais pas comment ça va se passer, on est au niveau des normes et des accords européens, mais ils veulent absolument mettre des véhicules autonomes rapidement.
Ouvrir le marché des véhicules autonomes le plus vite possible.
Absolument, que ce soit à travers leurs propres entreprises ou les entreprises installées en Angleterre, comme Tata Motors d'ailleurs.
Alors la preuve que cette voiture autonome est une réalité et pas seulement un fantasme, c'est que nous l'avons testée pour vous en la personne de notre cobaye Antoine Beauchamp. Bonjour Antoine.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Alors Antoine, je ne vais pas vous coller la pression ou la honte, quoi que ce soit vis-à-vis de vos proches, mais il faut que les gens sachent qu'à plus de 30 ans, vous n'avez toujours pas votre permis de conduire.
Absolument, je n'ai pas honte.
Et pourtant, vous avez presque conduit.
Rassurez-vous, il faut quand même bien un permis de conduire pour être au volant. volant d'une voiture autonome, donc je m'en suis tenu à mon rôle de passager. Il faut aussi bien faire attention à ne pas croire que la voiture autonome fait ce qu'elle veut, puisque le conducteur peut reprendre la main à tout instant. La voiture à conduite déléguée que j'ai testée est un prototype qui est développé par VDCOM, un institut créé en 2014, regroupant aussi bien des acteurs privés que publics. Ce véhicule, il a été développé en 6 mois et il a déjà été testé dans des zones urbaines autorisées à Bordeaux et à Versailles. C'est Frédéric Matisse, le directeur du programme véhicule de VDCOM, qui m'a fait la démonstration de cette voiture sur une piste d'essai à Satory, près de Versailles. Et vous allez l'entendre, tout s'est très très bien passé.
Donc ici, on est sur le site de Satory, où il y a une piste que l'on partage avec l'armée. Et on a cette piste à disposition pour tester nos dernières technologies, en particulier le véhicule autonome. Ce véhicule est le véhicule autonome de VDCOM. C'est un véhicule qui est bardé de technologies. En particulier, nous avons des capteurs, donc les capteurs qui permettent de détecter tout l'environnement. Donc on a des lasers, on a des radars et des caméras. Et puis, dans le véhicule autonome, il est nécessaire de localiser précisément de façon centimétrique le véhicule. Donc on va trouver des antennes sur le toit qui permettent cette localisation. En particulier, c'est ce qu'on appelle le GPS différentiel qui permet de localiser le véhicule au centimètre près. Et puis, dans le coffre, on va trouver toute l'intelligence artificielle, donc un ensemble de calculateurs qui vont donner les consignes au véhicule, une forme d'intelligence artificielle finalement, qui vont lui permettre de choisir les meilleures solutions au meilleur moment en fonction de la situation qu'il découvre le long de la route. Tout ça, bien sûr, en temps réel.
Donc là, ça ressemble concrètement à une vraie salle de machine, ce coffre.
Pour l'instant, un petit peu, parce qu'on a des ordinateurs qui sont un peu gros, parce que ce sont des ordinateurs qui nous permettent de développer des logiciels. Mais c'est globalement très facile à intégrer dans un véhicule. Vous avez vu, déjà, même les capteurs sont particulièrement bien intégrés. On associe un véhicule, finalement, avec un moteur électrique de série à ces logiciels d'automatisation.
Moi, je ferme le coffre.
L'habitacle, ça ressemble à un habitacle classique, sauf qu'il y a une petite tablette qui sert à quoi au milieu ?
On a refait un peu le design intérieur pour pouvoir intégrer déjà des capteurs, des caméras qui sont à l'intérieur du véhicule et qui regardent au loin. Et sinon, on a un deuxième écran qui, lui, nous donne des informations sur ce que le véhicule est en train de percevoir. Ça va donner des informations, on va dire au conducteur, ou plutôt au conducteur qui ne conduit plus, sur ce que le véhicule est en train de percevoir. On a également ici, vous percevez là dans les montants, de la lumière. Donc cette lumière donne aussi des informations sur l'état des calculateurs du véhicule. Donc quand on est rouge, c'est-à-dire qu'il y a un problème et qu'il faudra reprendre la main. Et lorsqu'on est blanc, c'est que tout se passe parfaitement. Donc le principe, c'est qu'on n'a pas le droit de rouler en mode auto sur toutes les routes. Donc au début, c'est un véhicule bimode, donc on le conduit normalement. Et quand on va arriver dans une zone où le système, le processus d'automatisation est autorisé et enclenchable, on aura une information et il suffira d'appuyer sur ce petit bouton pour laisser la main au véhicule et déléguer complètement la conduite. Je vais d'abord appuyer et rentrer en mode
automatique. Donc là, on est parti,
voilà.
On est en mode automatique, vous avez là, les mains croisées sur le ventre.
J'ai les mains croisées, mes pieds ne sont plus sur les pédales. Et donc le véhicule va gérer tout seul ses trajectoires, va gérer sa vitesse et peut-être même qu'on va rencontrer quelques obstacles sur le parcours pour voir comment il les gère. Donc là, vous voyez, on arrive à peu près à 50 km/h. Là, on arrive dans un virage assez serré. Donc il va ralentir pour pouvoir passer correctement ce virage en toute sécurité. Voilà, donc ici, j'ai une information puisque le véhicule est connecté qui me dit qu'il y a un obstacle sur la route. Donc il va gérer. Voilà. Tout seul, cet obstacle.
Cet obstacle, c'est une voiture qui est en warning, voilà. Qui est arrêtée sur la piste.
Qui est en panne. Donc, on a géré correctement l'obstacle. Donc là, je suis bloqué. Donc, je peux décider, au bout d'un moment, je vais...
Le volant tourne tout seul, se prépare.
Je vais décider d'éviter ce véhicule. Donc, le véhicule lui-même gère voit s'il y a un véhicule devant, etc. Donc, à gérer ça. Là, maintenant, on arrive... Il n'y a plus d'obstacle. Donc on va reprendre notre vitesse et on va continuer à rouler tranquillement sur cette piste. Donc ici, il y a un feu. Donc on est connecté, le véhicule est connecté au feu. Donc on s'arrête au feu rouge. Et quand le feu va passer au vert, on va repartir. Donc vous voyez, feu vert, en plus on a l'information, le feu est passé au vert, on repart. Dans cette partie, bah, avec le véhicule qui est devant, on montre que s'il y a des insertions plus ou moins brutales, on sait gérer tranquillement.
Voilà, donc là devant, il y a une autre
freinage.
Voiture qui s'engage.
Voilà, donc dès qu'il s'engage, on va freiner, on va anticiper finalement son freinage. Quand il va libérer, notre voie est devenue libre, donc on réaccélère jusqu'à atteindre la vitesse maximum autorisée. Donc ici, sur cette partie de la piste, vous voyez, la piste ici est très dégradée avec des virages extrêmement serrés. Donc on montre aussi qu'on a cette capacité de gérer des routes comme ça de très mauvaise qualité. On voit aussi que les marquages au sol sont de très mauvaise qualité, ce qui montre qu'on n'est pas uniquement localisé par rapport aux lignes, mais qu'on utilise bien ce qu'on appelait donc du GPS différentiel pour se localiser. Donc on a plusieurs techniques de localisation. Et là, on est passé dans un autre mode qui s'appelle le tracking. Imaginons que tous les systèmes de localisation de guidage soient défaillants. Il nous reste une solution qui est de reproduire les trajectoires des autres véhicules. Donc quand on est en bouchon, on peut imaginer qu'on soit un peu comme un poisson dans un banc de poisson. Et donc là, vous voyez, avec le radar, je me positionne sur le véhicule qui est en face et je suis exactement ce que le véhicule qui est devant moi est en train de faire. J'arrive en fin de parcours, donc j'ai un message qui me dit que je vais sortir de la zone de délégation de conduite autorisée. Donc là, il y a la fin de zone. Donc là, quand je suis dans une situation de fin de zone, il suffit que je remette les mains sur le volant pour repasser en mode conduite standard.
C'est aussi simple que ça.
C'est aussi simple que ça. Il suffit que je touche le volant ou que je touche une pédale. Si je ne l'avais pas fait, bah, le véhicule va ralentir et va s'arrêter.
Voilà, la conduite déléguée ou la voiture, le véhicule semi-autonome, il y a plein d'appellations, comme si vous y étiez grâce à Antoine Beauchamp qui va peut-être du coup passer son permis, sait-on jamais, Antoine.
Oui, dès ce week-end.
Allez, c'est parti. Une réaction à ce reportage, messieurs Faouzine Nachachibi, Arnaud de la Fortelle, on voit vraiment la réalité pratique, mécanique, informatique de ces véhicules qui roulent et qui sont effectifs donc.
Oui, mais nous avons aussi pu percevoir quelques problèmes, quelques défis réels. Parce que déjà, ce que nous avons remarqué, c'est que ça s'est fait sur un circuit. Et ensuite, j'ai cru comprendre que le coffre ressemblait encore à une seule machine. Puis nous avons parlé de défaillance, etc. Tout cela représente des vrais défis dont nous parlerons certainement.
Bien sûr. On va parler effectivement, vous faites bien de le signaler, Faouzine Nachachibi. On parlera des défis et des obstacles. Pour le moment, j'aimerais qu'on comprenne déjà, puisqu'on est dans une émission qui s'appelle La méthode scientifique, comment ça marche. On va regarder sous le capot, en quelque sorte, si vous le voulez bien, messieurs. Il faut dire déjà quelque chose, c'est que les véhicules, aujourd'hui, les véhicules extrêmement contemporains, on s'approche déjà d'une quasi-autonomie. Ça a commencé par la boîte automatique, puis le limitateur de vitesse, puis l'assistance au parking, puis la conduite en embouteillage. C'est-à-dire que on va passer du jour au lendemain à un véhicule semi-autonome. On est en train doucement d'y arriver, Arnaud de la Fortelle.
Alors, il y a les deux voies. On a des véhicules aujourd'hui qui sont de plus en plus intelligents, tout simplement parce que le consommateur le demande. Le plaisir de conduire quand vous êtes dans un embouteillage pendant une heure, en fait, il est relativement faible.
Il est restreint, je vous le confirme.
Voilà. Et personne n'a envie de conduire dans ces conditions. Donc, effectivement, le pilote automatique en cas d'embouteillage, eh ben, c'est bien pratique. Donc, il y a une demande de ce côté-là. Mais ces véhicules restent quand même des véhicules conventionnels. Et on l'a dit, il ne faut pas se tromper, même sur une Tesla, qui est capable de conduire de manière quasi autonome, elle n'est pas autonome. Et d'un autre côté, on a les véhicules qui sont complètement autonomes. Vous avez parlé de navettes à un moment. Mm-hmm. Alors, dans des environnements très contrôlés, des campus, des universités, des hôpitaux peut-être, des parcs d'attractions, il existe déjà aujourd'hui, vous pouvez acheter aujourd'hui des véhicules autonomes. Ça existe. Et vous pouvez les acheter. Mais vous ne pouvez pas aller sur la route avec. Et donc, ce à quoi on assiste, c'est vraiment la convergence de ces deux types de véhicules. Le véhicule traditionnel assez intelligent et qui devient de plus en plus intelligent, et un véhicule qui était très intelligent mais dans un environnement qui lui permettait de fonctionner en toute sécurité, voilà, comme là sur la piste, et qu'on commence à faire sortir sur la route.
Alors concrètement, on a entendu dans le reportage d'Antoine Beauchamp, c'est truffé de capteurs, et non pas de capteurs, c'est autre chose, le coffre est rempli d'ordinateurs. Concrètement, un véhicule intelligent, qu'est-ce qui est important de développer? C'est la redondance des procédés au cas où il y ait un système qui soit défaillant. C'est du machine learning. On a parlé de machine learning et de deep learning la semaine dernière dans l'émission. Donc, un ordinateur de bord qui apprend lui-même de ses erreurs. Qu'est-ce qu'il y a sous le capot, encore une fois, Fawzi Nechachili?
Je vais schématiser un petit peu. Un véhicule, c'est comme un être humain. Il a besoin de ses sens et il a besoin de bouger, donc de sa locomotion. Ses sens, ce sont tout simplement les capteurs. Donc un véhicule a besoin de ses capteurs pour voir, pour entendre, donc la communication, pour voir la perception, et donc pour comprendre la scène. Une fois que l'analyse de ces signaux se fait, il y a le cerveau qui intervient pour décider, pour comprendre, pour modéliser. Et là, il s'agit de tout ce qui est fonctions intelligentes, qui sont tout simplement des programmes.
Des algorithmes.
Des algorithmes qui traitent les signaux, qui fusionnent ces informations-là et qui élaborent des plans d'action, que ce soit des trajectoires ou autre chose. Ensuite, une fois qu'on a décidé de l'action et de la trajectoire, ben, il va falloir transmettre aux jambes, si je puis dire, donc aux roues, au volant, il faut transmettre les bonnes commandes qui les fassent bouger de manière homogène pour assurer une stabilité, etc., etc. Donc il y a vraiment la perception, la décision et puis l'action. Et c'est le fameux paradigme qui était déjà celui de la robotique mobile à l'époque et qui a été tout simplement transféré aux véhicules autonomes.
Arnaud Lafortelle, pour compléter ça, donc aujourd'hui, une série de capteurs, des algorithmes qui tournent, et puis la mécanique, finalement, pour revenir à la motricité originelle. On a entendu, je vous le disais tout à l'heure, dans l'émission de la semaine dernière, que le deep learning, donc l'apprentissage profond, est en pleine expansion. Ça veut dire qu'on peut voir des progrès très très rapides, c'est-à-dire arriver vers de plus en plus d'autonomie, justement grâce à l'apprentissage profond qui devient de plus en plus précis.
Alors, on est dans un paradigme, comme le rappelait Fawzi, perception, planification, contrôle, la boucle robotique, qui est valable pour tous les robots. Ce que fait le deep learning à l'origine, c'est de prendre des données très complexes, typiquement des données de vidéo, et de les transformer en données objets. Par exemple, il y a un visage, il n'y a pas de visage. Le deep learning a commencé avec la reconnaissance de personnes. Et aujourd'hui, on voit des initiatives pour apprendre directement, par exemple, les contrôles. C'est-à-dire qu'il y a une initiative, par exemple Deep Drive, donc j'ai eu l'occasion d'aller à Berkeley, on collabore avec Berkeley pour voir ce projet. Et Deep Drive, c'est l'application du deep learning à la conduite. Et c'est assez fascinant parce que vous mettez vos capteurs, essentiellement vos caméras, sur le véhicule, et le véhicule doit apprendre à tourner le volant et accélérer, ralentir, en fonction de ce qu'il voit directement. Alors, c'est effectivement très impressionnant, et on voit que ça peut apporter quelque chose, mais aujourd'hui, la plupart des spécialistes ne croient pas qu'on va aboutir directement comme ça, parce que, tout simplement, dans l'apprentissage, vous apprenez un schéma particulier. Et il va falloir vous adapter à tout un tas de comportements qui sont très rares. Et si vous ne vous adaptez pas, eh bien, vous risquez de mourir. C'est ce qui s'était passé sur la Tesla. Le véhicule n'a jamais appris à réagir à un camion qui traverserait une autoroute de gauche à droite. Bah, c'est vrai qu'il n'y a pas de camion en France.
C'est la cause de l'accident mortel du mois de mars.
Alors, la cause, je ne vais pas me prononcer parce que les juristes se prononceront.
Oui. On dit que c'est parce que l'ordinateur de bord n'a pas réussi à faire la distinction entre la couleur du camion et la couleur du ciel aussi.
Alors, on a dit beaucoup de choses. Il semblerait qu'il y ait deux choses. La caméra ne voyait pas, donc le véhicule était aveugle, et son radar avait détecté le camion, mais il l'a pris pour un panneau de signalisation, parce que le camion ne bougeait pas par rapport au sol, puisqu'il était perpendiculaire. Et en fait, c'est ce qu'on appelle parfois le surapprentissage, c'est-à-dire que vous apprenez que tous ces obstacles métalliques qui sont en face de vous et qui ne bougent pas sont des panneaux de signalisation.
Donc il a mal interprété.
Voilà. Et au 10 millième que vous voyez, vous êtes très très confiant que ce sera un panneau de signalisation. Sauf que le 10 000 unième est un poids lourd. Eh ben, vous croyez passer dessous, et puis en fait, vous passez dedans.
Alors, ça veut dire que donc le deep learning appliqué à la voiture autonome, ça n'est pas, selon vous, l'avenir de la voiture autonome. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est encore au niveau d'avant, c'est-à-dire le machine learning, c'est-à-dire que on apprend au capteur à reconnaître les paysages, à reconnaître les virages, à reconnaître les panneaux de signalisation pour un changement de civilisation motrice, sait-on jamais.
Voilà, c'est effectivement toute une civilisation, nos panneaux routiers. C'est entendu. Non, je dis pas que on va pas s'en servir. Il faut s'en servir. Ça marche très bien pour certaines choses, pour reconnaître certaines choses. Mais on va encore avoir besoin du cerveau humain pour rendre les véhicules plus intelligents. C'est-à-dire que savoir détecter des panneaux, c'est très important. Le deep learning permet de le faire facilement. C'est la meilleure technologie aujourd'hui. Mais de là à tout interpréter en disant tout ce qui est fixe est un panneau, il va falloir lui dire attention, il peut y avoir des exceptions de sécurité. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut mettre les véhicules sur la route. C'est parce que c'est à ce moment-là qu'on aura conduit des millions de kilomètres qu'on se rendra compte de ce qui marche très bien, ce qui marche bien et puis ce qui marche pas.
En espérant que ça ne laisse pas encore quelques autres vies sur le bord de la route, justement. Autre question, et cet accident de la Tesla le soulève ce problème, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, Fawzi Nachashibi, c'est la question de la redondance. C'est important, est-ce qu'on peut en dire un mot ? C'est-à-dire de dire que si quelque chose est défaillant, il faut qu'un autre système puisse prendre le relais tout de suite, et ça fait partie des défis justement de cette voiture autonome.
Absolument. Donc aujourd'hui, dans le domaine de l'aéronautique, la redondance est quelque chose d'acquis et qui a son coût d'ailleurs. Mmh. Au niveau de l'automobile, on peut parler de plusieurs niveaux de redondance. Au niveau capteur, est-ce qu'il est intéressant ou important de dupliquer les capteurs ? Ce n'est pas sûr parce que dans certaines conditions, le capteur qui va tomber en panne ou qui va faillir, son alter ego risque de faire autant.
De faillir aussi.
Donc, ce qu'il faut, c'est plus que c'est de la redondance, mais surtout de la redondance fonctionnelle. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on ait des capteurs hétérogènes, différents.
Complémentaires.
Et qui soit capable de fournir des informations presque similaires pour remplir la fonction nécessaire. Et donc et puis la redondance va de pair avec la sûreté de fonctionnement. Donc c'est un des gros défis aujourd'hui. C'est que fait-on en cas de défaillance fonctionnelle? Au-delà du capteur, ce qui risque de se passer, c'est que si un capteur tombe en panne, l'autre capteur ne puisse pas nous fournir la bonne information. Mmh. Et donc ça, c'est un problème.
Ce qui s'est passé dans le cas de Tesla, donc.
Alors oui, alors dans le cas de Tesla, en plus de cela, ce qui s'est passé, c'est que Tesla a souhaité réduire ce qu'on appelle les fausses alarmes pour ne pas embêter les conducteurs. En réduisant le taux de fausses alarmes, vous risquez de passer à côté du 10 millième
de signalisation et non pas de civilisation, décidément.
Absolument. Donc ça, c'est un problème qu'il va falloir régler. Mais dans tous les cas, ce que vous dites est vrai. Il est nécessaire de dupliquer les capteurs, voire les fonctions. Et aujourd'hui, on voit, donc, que ce soit chez les fournisseurs ou chez les constructeurs, un réel effort pour réaliser des fonctions de plus en plus intelligentes et des systèmes de fusion de données multi-algorithmes redondants.
Et puis, il y a aussi, comme vous allez l'entendre dans cette archive du CNRS Images, qui est notre partenaire, une archive qui date de 2010, la volonté de mettre en place dans chaque véhicule une sorte de boîte noire en partage. Écoutez.
Sur une plateforme expérimentale du LAS, dédiée au système mobile, des chercheurs réfléchissent à une boîte noire virtuelle pour voitures. Ce concept repose sur la communication d'informations entre véhicules en exploitant les possibilités offertes par les réseaux sans fil. Il s'agit là de techniques de sauvegarde coopérative.
La sauvegarde coopérative, c'est un concept assez simple, en fait, où on accepte de sauvegarder des données mutuellement sur des dispositifs mobiles voisins. Donc chaque dispositif va pouvoir sauvegarder sur ses voisins et va pouvoir sauvegarder de l'information issue des voisins. Donc la boîte noire distribuée, en fait, c'est une boîte noire virtuelle pour automobile où, en fait, au lieu de sauvegarder localement sur un dispositif durci la boîte noire, on va sauvegarder les informations de cap, position, vitesse sur les automobiles voisines et en échange, on sauvegardera cette information pour elles.
Chaque voiture partage ainsi en permanence ses informations avec celles des autres véhicules qu'elle croise.
Voilà, vous avez entendu Marc-Olivier Kilidjian, extrait de La boîte noire en partage. J'en profite d'ailleurs pour vous signaler que vous trouverez, comme chaque semaine sur le site de la méthode scientifique, sur franceculture.fr, une vidéo embarquée de CNRS Images, de notre partenaire. Celle d'aujourd'hui s'intitule « Minibus robotique » pour aller donc plus loin sur ces questions d'autonomie des véhicules. Fawzi Nachachibi, Arnaud de La Fortelle, vous m'avez dit que vous connaissiez déjà cette initiative, vous connaissez les gens, Fawzi Nachachibi, qui ont mis en place cette boîte noire participative. J'aime bien cette idée de sauvegarde coopérative, c'est-à-dire qu'en cas de défaillance de la redondance, finalement, ce sont les voitures à côté qui pourraient reprendre le relais.
Oui, c'est un petit peu une extension de ce qu'on appelle aujourd'hui la conduite coopérative. C'est une des applications possibles. Donc là, il s'agit de sauvegarder des données, là où, parmi d'autres, possibilités qui sont par exemple l'échange de données en dynamique entre véhicules pour des motifs de sécurité ou d'infotainment ou autre.
Oui, Arnaud de La Fortelle.
Tout à fait. Le problème des véhicules, déjà aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont pas tout seuls sur la route. Donc, on parle d'un véhicule Google Car, hein, c'est excellent. Qu'est-ce qui se passera quand il y en aura plein? Aujourd'hui, en fait, ils vont relativement lentement parce qu'ils sont très prudents. Il y en a même un qui s'est fait arrêter par la police à Versailles, un autre d'ailleurs, un Google Car en Californie, parce qu'ils allaient trop lentement. Donc c'est assez intéressant de le savoir aujourd'hui. Alors, pour aller plus loin, il faut évidemment qu'ils soient coopératifs. Et donc, ils vont devoir échanger de la donnée. C'est des choses qu'on a développées au sein de nos projets. D'ailleurs, on a coopéré ensemble avec Fawzi sur ces sujets-là. Il y a même une start-up française qui a été créée, hein, qui s'appelle Yogoco, Yugo and We Connect, qui fait de la communication intelligente pour le véhicule autonome, qui a été d'ailleurs mis sur le véhicule de VDCOM. Donc, oui, il y a tout un écosystème français. Et demain, oui, nous y croyons, les véhicules seront autonomes, mais aussi coopératifs et communicants.
Et finalement, quand on en arrivera là, quand tous les véhicules seront automatisés et parleront entre eux, on pourra presque prétendre à 0% d'accidentologie et tout sera extrêmement bien coordonné et finalement tout sera extrêmement fluide. Mais le problème, c'est qu'il va falloir arriver à cet endroit-là. Et c'est bien toute cette étape de transition entre les véhicules conduits à la main et les véhicules autonomes qui va être compliquée à articuler, si je comprends bien Arnaud de La Fortelle.
Oui, alors on va passer certainement par une étape où on fait ce qu'on appelle de la cobotique, c'est-à-dire de la robotique qui est coopérative avec l'humain. Donc on va avoir de la conduite supervisée, sans doute, de la conduite complètement autonome là où on peut, et de la conduite manuelle si les gens tiennent absolument à conduire manuellement. Je ne suis pas sûr qu'on arrivera à un paysage où il n'y a que des véhicules autonomes, tout simplement parce que demain, moi, j'ai peut-être envie de prendre mon vélo, d'aller dans la ville, et donc j'aurai pas un vélo autonome coopératif, je tiens à pédaler sur mon vélo.
Fawzi Nachachibi, sur cette question du tuilage entre le moment l'autonomie et la conduite manuelle.
Absolument, il y aura un moment critique où nous allons peut-être passer de l'autre côté de la barrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tant que le taux de pénétration sera faible, l'intérêt va être très minimal. En revanche, plus vous allez avoir des véhicules coopératifs, coopérants, connectés, et d'ailleurs, il va falloir aussi parler d'infrastructures connectées, parce qu'un véhicule ne communique pas uniquement avec un autre véhicule, il communique également avec l'infrastructure. D'ailleurs, aujourd'hui, les premières applications sont surtout en ce qu'on appelle V2I, donc Vehicle to Infrastructure, c'est-à-dire c'est là où nous avons le plus de facilité, parce que véhicule à véhicule a des contraintes, encore une fois, techniques importantes. Mais plus nous allons avoir des véhicules communicants et plus effectivement nous allons pouvoir assurer une sécurité, une optimisation des trajets, une optimisation de la consommation
de carburant, quel qu'il soit,
donc nous allons moins polluer, etc., etc.
J'ai lu même qu'il était question de développer des revêtements au sol qui seraient précisément des revêtements qui permettraient de recharger la voiture, d'interfacer les voitures les unes entre elles. C'est une réalité ça, Arnaud de La Fortelle ?
Alors c'est une réalité. Il y a des initiatives pour faire des autoroutes qui rechargent les véhicules électriques, pour faire des routes qui dialoguent avec le véhicule. Ça part d'une constatation toute simple. C'est plus simple d'avoir un véhicule très intelligent dans un environnement intelligent qu'un véhicule intelligent dans un environnement bête. Voilà, on va le faire très simplement. Oui. Donc si je peux m'entendre avec la route qui me donne des informations le jour où ça se passe mal pour moi. Par exemple, un capteur tombe en panne, vous parliez de redondance, eh bien, où il y a un banc de brouillard et j'ai vraiment, mes capteurs n'y arrivent pas, il y a trop de monde, je sais pas, il y a un panneau que je n'arrive pas à bien détecter. Si je peux demander l'assistance à la route et la route me dit tout va bien, tu continues tout droit, eh ben, écoutez,
oui, c'est une redondance supplémentaire. Bien sûr. Et alors, sur le développement, et puis ensuite, on va aller vraiment plus dans les problèmes que peut, ou en tout cas, les problèmes qui restent à résoudre avant d'arriver à ce paysage utopique d'une flotte 100% autonome et totalement interfacée avec la route et le monde. Il y a des plans de développement que j'ai lus qui sont des plans en quatre phases. Vous allez me dire si c'est encore d'actualité. D'abord, la voiture semi-autonome, donc où le conducteur conserve les yeux sur la route et peut reprendre le volant, ce qui est le cas donc maintenant. Ensuite, la phase d'automatisation partielle. Le conducteur peut déléguer la conduite sur autoroute et pendant les embouteillages, mais il reste encore, voilà, à peu près en mesure de reprendre la main. Après, un véhicule hautement autonome, troisième phase, horizon 2020, dans des environnements à haute vitesse et dans les centres-villes, la voiture qui peut échanger des informations avec les autres voitures donc, et à partir de 2030, 2050, on envisage de gérer la voiture finalement par un réseau, comme un réseau. Finalement, toutes les voitures sont totalement interfacées avec... Et ça vous paraît réaliste, ce plan de développement-là, Faouzi Nachachibi ?
Oui, je pense que ce n'est que de cette manière progressive qu'il va falloir, qu'on pourra aboutir. Ce que vous venez de mentionner, c'est ce qu'on appelle, nous, les niveaux d'automatisation du véhicule, alors qu'il y a 4 ou 5. Ce que vous avez décrit est tout à fait vrai. Donc, ça va dans le sens de la délégation progressive de la conduite de l'humain vers la machine jusqu'au niveau ultime, à savoir l'autonomie et non plus la haute automatisation. Et ensuite, c'est l'autonomie partagée, enfin coopérative. En fait.
Arnaud de Lafortelle.
Oui, alors Faouzi, tu es d'accord avec moi que c'est quand même une vision qu'on avait il y a plutôt quelques années. Hein. Aujourd'hui, on revient un tout petit peu en arrière sur cette vision, notamment avec l'accident de la Tesla qui quand même nous montre que ça pose des problèmes. Parce que quand vous arrivez au niveau hautement automatisé, les gens croient que c'est totalement automatisé. Parce que si pendant une heure, vous n'avez pas besoin de toucher le volant, qu'est-ce qui vous dit que dans les 10 prochaines minutes, vous aurez besoin de reprendre le volant ? Donc vous n'allez pas conduire du tout. C'est ce qui s'est passé dans l'accident de la Tesla. Le conducteur était supposé reprendre la main, sauf qu'il est rentré dans le camion, à mon avis, sans même le voir. Et donc aujourd'hui, on estime que quelque chose qui est simple, c'est que la machine prenne la main sur le conducteur quand il y a un gros problème. En revanche, le conducteur peut toujours reprendre la main si jamais il le veut. Par contre, s'il le veut pas, c'est-à-dire si c'est la machine qui dit « je ne sais plus faire, reprends la conduite »,
c'est
beaucoup plus compliqué parce qu'il faut réveiller un peu le conducteur. Il faut lui dire « bon, regarde un peu autour de toi parce que c'est pas gentil de rendre le volant 10 mètres devant un mur en brique, lancé à 100 km/h. La machine sait pas faire, mais l'humain sait pas faire non plus. Donc, ça marche pas. Et donc, on a là un vrai problème.
D'interfaçage homme-machine.
Absolument.
Faouzi Nachachibi.
Effectivement, je pense que là, on a mis le doigt sur deux points très importants. Qui intéresse d'ailleurs nos collègues des facteurs humains. Le premier, c'est comment devrait se faire l'interaction homme-machine. Et le problème dont vient de parler Arnaud, c'est ce qu'on appelle le problème de l'arbitrage. Comment donner la main ou reprendre la main au conducteur ? Parce que, par exemple, lors d'une manœuvre un peu dangereuse, par exemple, ou un dépassement un peu risqué, est-ce qu'on a le droit, comme ça, de redonner la main subitement ?
Est-ce qu'on sait la machine ?
La machine. Est-ce que la machine redonne la main subitement au conducteur ? Ça peut être très, très dangereux. Imaginons que le conducteur soit un petit peu
assoupi ou
n'importe. Et donc ça, c'est un point qui est très important. Et le deuxième point important, c'est l'éducation, c'est l'acceptation, c'est comment faire en sorte que l'homme comprennent finalement cette machine. Aujourd'hui, nous avons des tâches mécaniques tout à fait bêtes qui nous permettent de conduire la voiture. Mais demain, lorsque vous allez avoir des interfaces un peu plus évoluées, un comportement autonome de ces machines-là, il va falloir que les gens s'accoutument de la présence de ces machines, de cette intelligence qui les accompagne pendant leur trajet.
Lang, Ford Mustang,
et
bang.
On embrasse les platanes.
Mas
à gauche,
Kang
à droite, et à gauche à droite. dessus.
Keep cool.
Une barre de chocolat.
Un Coca-Cola.
On se fait des
lines
en
Ford Mustang.
Et
bang.
On embrasse les platanes.
Must.
À gauche.
Tang.
À droite. Et à gauche, à droite, une bouteille de
fluid make-up,
un
flash,
un
browning,
et un
pick-up,
un recueil,
dead capo,
un briquet,
zippo,
on se fait des
langues
en
Ford Mustang.
Et
bang.
On embrasse les platanes.
Must.
À gauche.
Chang.
À droite. Et à gauche, à droite. Un numéro de
Superman.
Un écrou de chez
Paco Rabanne.
Une photo.
La méthode scientifique, Nicolas Martin.
Voilà, on espère moins embrasser les platanes qu'en Ford Mustang avec Serge Gainsbourg dans la voiture autonome dont nous discutons aujourd'hui dans la méthode scientifique avec Fawzi Nachashibi, ingénieur à l'INRIA, et Arnaud de la Fortelle, directeur du centre de robotique des mines ParisTech. On a parlé en première partie longuement, on a regardé sous le capot de cette voiture autonome, on s'est demandé quelles étaient encore les limites, et puis on va regarder là où ça coince encore, et on a commencé à l'évoquer tout à l'heure, et il y a un endroit qui fait beaucoup parler. Alors c'est un endroit un peu éthique, un peu philosophique, mais c'est une question qui soulève les passions. C'est la question de l'algorithme qui protège ou non. La question éthique de se dire, eh bien, en cas d'accident, en cas de danger mortel pour le conducteur, qui la voiture doit-elle protéger? Est-ce que c'est une vraie question d'intelligence artificielle de savoir si, eh bien, en cas de collision et de mort inévitable, il faut plutôt protéger à l'intérieur de la voiture ou il faut plutôt protéger à l'extérieur de la voiture? Arnaud de la Fortelle.
Alors, mon sentiment est que c'est plutôt un faux problème, hein, dans le sens suivant. Vous ne préparez pas votre voiture à avoir des pannes, hein. Donc bien sûr qu'elle en aura, hein, on le sait, et vous cherchez à protéger au maximum tout le monde. Vous cherchez pas en particulier à rendre la voiture méchante, hein, vis-à-vis de certains usagers. Ensuite, il faut se souvenir que la voiture, c'est un robot. Les robots sont encore relativement simples. Hein. Si on savait faire un Terminator, on l'aurait fait depuis longtemps. On serait riche et mort, hein, mais on serait riche. Et donc, on n'en est pas du tout au stade, hein, où il y a le temps d'une vraie réflexion. En cas d'accident, il est très, très, très probable aujourd'hui que le véhicule continue, hein, sur sa programmation. Et à la limite, c'est tant mieux parce que il n'y a pas de décision qui est prise. C'est un accident. Il faudra analyser les causes, mais on ne cherche pas à prendre la décision de savoir qui on va tuer.
Fawzi Nachashibi, c'est un faux problème cette question, parce que c'est vraiment la question qui a agité la sphère publique pendant longtemps autour de cette question du véhicule autonome.
C'est un faux problème, mais c'est un vrai problème. Je vous retourne la question.
Voilà une réponse algorithmique.
On peut presque retourner la question. Est-ce que lorsque vous allez acheter votre véhicule, vous allez acheter un véhicule qui, le jour où il y aurait un problème, il va favoriser quelqu'un d'autre plutôt que de vous protéger. Par ailleurs, lorsque vous êtes dans une situation dangereuse, vous avez un gamin qui traverse et que vous risquez de le percuter, est-ce que vous favorisez le véhicule arrêté à droite ou le... Alors, parfois, la réponse à la question peut être évidente et parfois pas du tout. Donc je pense effectivement que c'est déjà très compliqué. Même d'un point de vue technique, il sera très difficile de reconnaître les situations où le système pourrait prendre la décision la bonne décision.
Arnaud Lafortelle.
Alors, revenons aux choses basiques. Hein. Aujourd'hui, on a des véhicules qui tuent, hein, d'ailleurs, tous les ans sur tous
les jours,
hein, tous les jours et en grand nombre. Hein. Il y a plus d'un million de morts par la voiture chaque année dans le monde. On ne demande pas aujourd'hui au conducteur. On ne va pas faire de procès au conducteur parce qu'en cas d'accident, il a choisi de tuer une personne plutôt que d'en tuer cinq ou au contraire qu'il en a tué cinq plutôt que d'en avoir tué un. Donc, ce qu'on ne fait pas aujourd'hui pour les humains, je ne pense pas qu'on le fera pour des machines demain, ou faudrait qu'elles deviennent, alors peut-être dans 100 ans, quand elles seront vraiment très intelligentes, très très rapides, mais elles seront probablement aussi beaucoup plus sûres.
Mmh. Ce qui est intéressant dans cette question, et qui est effectivement un faux problème, ou en tout cas un problème théorique, c'est que ça aboutit tout de même à une sorte de paradoxe, puisqu'on sait que la voiture autonome permettra, le jour où elle sera développée, de réduire drastiquement l'accidentologie. On parle de 80% d'accidents en moins, de conduire un taux d'accident par véhicule à 0,00009. Pour autant, cette question théorique, qui relève plus de la fantasmatique, peut pousser à les gens à ne pas confier leur sécurité à des voitures autonomes et à ne pas vouloir confier leur vie à des voitures qui pourraient ne pas les choisir ou ne pas les privilégier, c'est-à-dire un algorithme qui ne serait pas utilitariste. Fawzi Nachashimi, c'est un vrai paradoxe.
Oui, absolument. C'est encore une fois, je suis d'accord avec Arnaud, dans le sens où aujourd'hui, le chiffre de 80%, pour moi, c'est beaucoup. Mmh. Si nous sommes en train de travailler sur les véhicules autonomes, ce n'est pas pour aboutir à 20% d'accidents. C'est bien inférieur à ce chiffre-là.
Et
on tend vers zéro. Et sur le epsilon restant, effectivement, il ne faut pas se poser ce genre de questions. Est-ce qu'on favorise telle ou telle chose? Est-ce qu'on va décider? Est-ce que la machine va réellement pouvoir analyser la collision, avec qui la collision sera faite, le nombre de personnes, l'âge et la couleur des cheveux, c'est pas possible. Donc il faut plus poser ce genre de questions. L'idée, c'est de travailler surtout sur la sécurité, maximiser la sécurité et donc maximiser l'intelligence des systèmes.
Il y a une autre question qui se pose aussi immédiatement, dès qu'on commence à tout connecter, et c'est une question d'autant plus d'actualité, puisque mardi dernier, le 20 septembre, le Guardian, le quotidien britannique, titrait sur ce groupe de hackers qui a réussi à pirater une Tesla Model S à 15 km de distance. Ça pose là aussi une vraie question de sécurité, me semble-t-il, Arnaud Lafortelle.
Oui. Il y avait déjà eu le précédent d'une Jeep auparavant, piratée aussi à 20 miles, je crois, de distance aux États-Unis. Les systèmes actuels ne sont pas assez sécurisés, très nettement. Alors, ça existe, les systèmes de sécurité, simplement ça coûte cher aujourd'hui, et donc ils ne sont pas assez développés. Mais il existe des solutions techniques aujourd'hui, le problème c'est de les démocratiser.
Fawzi Nachashimi, sur cette question de la sécurité de l'extrême connexion, imaginez évidemment alors ce que serait si on peut pirater une voiture dans un environnement où 80 ou 90% des véhicules sont autonomes. Effectivement, ça pose un problème très net de sécurité informatique.
Absolument, le problème de la cybersécurité est un problème très très connu et qui a été bien identifié depuis un moment. D'ailleurs, il y a deux types de défaillances ou de vulnérabilité. La première, elle est au niveau que je qualifierais plutôt de physique, comme l'a dit Arnaud, c'est que, et pour cela, on a des parades, on sait comment bloquer, empêcher l'accès direct au système. En revanche, ce sur quoi nous travaillons, et beaucoup de chercheurs travaillent aujourd'hui, c'est la diffusion de mauvaises informations. Parce qu'il suffit que vous soyez vous-même communicant et que vous diffusiez des informations erronées, ça pourrait risquer, vous pouvez provoquer soit des collisions, des accidents, des bouchons, etc. Et pour cela, le problème est un peu plus délicat parce qu'il s'agit d'analyser et de valider des informations et valider la véracité et authentifier la source. Et ça, c'est un problème un peu différent.
Arnaud Lafortelle.
Oui, alors, pour préciser, on ne pense pas aujourd'hui que les véhicules seront connectés et pilotés à distance. Personne n'acceptera d'être dans un véhicule qui est totalement téléguidé. Donc, on parlait de véhicules autonomes. Ça veut dire qu'ils ont une certaine autonomie, y compris autonomie de décision. La La manière qui est privilégiée aujourd'hui, c'est de dire le véhicule a son autonomie de décision avec ses propres capteurs. Si jamais il rentre dans un environnement où les données envoyées par les autres lui semblent peu crédibles, par exemple on lui dit qu'il y a une voiture devant lui mais il ne la voit pas, il va se mettre à se méfier de ces informations et décider de conduire comme il le ferait s'il était tout seul. Donc il sera plus coopératif. Donc, le monde des véhicules coopératifs n'est pas un monde dans lequel il y a un grand cerveau qui dirige tous les véhicules du monde. C'est un véhicule dans lequel chaque véhicule a son propre cerveau, est capable de comprendre raisonnablement, mais ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de progrès à faire encore sur l'intelligence artificielle.
Et pour finir cette émission, comme chaque mercredi, nous accueillons un ou une jeune scientifique pour venir nous présenter et vous présenter leurs travaux de recherche avec une contrainte de temps. Il ne faut pas faire plus de 4 minutes. Aujourd'hui, c'est Eva Coupté qui nous fait le plaisir de se prêter au jeu. Bonjour Eva.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse au laboratoire de robotique des mines Paris Tech, vous aussi. Bienvenue dans la recherche montre en un, c'est à vous.
Donc bonjour, je suis actuellement donc doctorante au laboratoire de robotique Mines Paris Tech et ma thèse s'inscrit dans le cadre d'une chaire qui lie Mines Paris Tech et PSA Peugeot Citroën. Donc mon sujet de thèse s'intitule Reconnaissance de gestes techniques pour la collaboration homme-robot sur les chaînes de montage et elle s'inscrit dans le plan de l'usine du futur qui a pour but de rendre les usines françaises plus compétitives. Donc aujourd'hui, lorsqu'on pense aux usines et plus particulièrement aux usines automobiles, on imagine beaucoup de robots très massifs qui travaillent dans des zones dédiées où les opérateurs ne peuvent pas aller. Donc ces robots sont très performants mais ils rendent les usines plus flexibles. Aujourd'hui, les industriels veulent s'orienter vers des solutions plus mixtes où on pourrait allier les compétences des opérateurs qui sont l'intelligence, la adaptabilité, la dextérité et aussi les compétences des robots qui sont la force et la répétabilité. Donc ces robots feraient plutôt des tâches à faible valeur ajoutée ou des tâches qui pourraient mener à des troubles musculo-squelettiques. Ils travailleraient dans le même espace que les opérateurs en collaboration, donc sur une même tâche ou en comprenant sur deux tâches différentes. Néanmoins, l'ajout de ces robots sur les chaînes de montage amène de nouvelles problématiques. Une première problématique, c'est la sécurité. Il faut pouvoir assurer la sécurité des opérateurs qui sont à proximité de ces robots. Donc aujourd'hui, les robots collaboratifs qui sont ou qui sont en train d'être mis sur les chaînes de montage sont intrinsèquement sûrs. Ils ont des capteurs embarqués qui leur permettent de détecter lorsqu'ils sont proches d'opérateurs et ne veulent pas faire de mouvements qui pourraient blesser les opérateurs. Une deuxième problématique, c'est l'acceptabilité. Pendant toute leur carrière, on a dit aux opérateurs qu'il fallait s'éloigner des robots, que c'était des machines dangereuses, qu'il ne fallait pas s'en approcher lorsqu'elles étaient en fonctionnement. Aujourd'hui, on met des robots dans leur zone de travail. Donc il y a tout un travail à faire pour que les opérateurs acceptent de travailler avec ces robots. Cette problématique a été traitée par une thèse, également Mines Paris Tech, dans la chaire qui lie Mines et PSA. Et donc moi, je me suis intéressée plutôt à une troisième problématique, qui est comment rendre ces robots intelligents. En effet, pour permettre une collaboration fluide et naturelle entre un opérateur et un robot, il faut que le robot puisse comprendre son environnement et puisse comprendre ce qui se passe autour de lui. Donc nous avons décidé d'utiliser plus particulièrement la reconnaissance des gestes. En effet, on pense qu'avec la reconnaissance des gestes, le robot peut adapter son allure, comprendre si quelque chose d'anormal survient, mais également, plus important, puisse se synchroniser avec l'opérateur. Donc à notre disposition, par PSA, nous avions deux cas d'étude, un cas de collaboration, et un cas de coprésence. Nous avions une contrainte, c'est d'utiliser des capteurs non intrusifs, donc c'est-à-dire des capteurs qui ne gênent pas les opérateurs lorsqu'ils étaient en train de travailler avec le robot. Nous avons donc décidé d'utiliser des caméras de profondeur avec une vue de dessus. Donc la vue de dessus, c'était pour limiter toutes les possibles occultations qu'il peut y avoir sur les chaînes de montage. Et les caméras de profondeur, contrairement aux caméras qu'on peut avoir sur les smartphones, ce ne sont pas des caméras qui nous donnent des informations sur la luminosité ou la couleur de la scène qu'on est en train de filmer, mais ce sont des caméras qui nous donnent des informations sur la distance entre chaque objet qui est filmé avec la caméra. Nous avons utilisé les images de profondeur issues de ces caméras pour faire un algorithme qui permettait de suivre les mains des opérateurs qui travaillent avec le robot. Donc nous avons en temps réel le mouvement des mains des opérateurs. Avec ces informations-là, nous avons appris des gestes techniques que faisaient les opérateurs. Donc pour apprendre ces gestes techniques, nous avons utilisé un algorithme de machine learning ou d'apprentissage artificiel qui s'appelle les chaînes de Markov cachées ou HMM. Avec cet algorithme, nous pouvons aussi reconnaître en temps réel les gestes qui sont effectués par les opérateurs. Donc avec cette thèse, nous avons mis en place un système de reconnaissance des gestes techniques qui nous permet de reconnaître 90% des gestes qui sont effectués par les opérateurs. Nous avons également mis en évidence une méthodologie complète pour effectuer une reconnaissance des gestes techniques en milieu industriel permettant une collaboration fluide avec les robots. Et on pourra aussi également ouvrir cette thèse avec la collaboration avec d'autres robots. Aujourd'hui, les robots sont principalement dans les usines, mais ils vont arriver partout, que ce soit dans les musées, dans les boutiques et même chez nous, pour aider les personnes à mobilité réduite. Et il faudra trouver des solutions pour permettre cette collaboration. Et la reconnaissance de gestes est une solution qui permettra de collaborer avec le robot.
Eh bien, félicitations, Eva, c'était limpide. Messieurs, bon, vous connaissez Arnaud Fortel, donc, puisque vous travaillez...
On travaille ensemble.
Vous travaillez ensemble.
Bravo.
Alors, un regard sur cette présentation qui était, je dois dire, extrêmement claire.
Ah ben, je suis très fier d'avoir des doctorantes comme ça dans mon labo.
un mot plus sur ces algorithmes donc de reconnaissance des gestes, précisément sur l'importance que peut avoir ce type d'algorithme de reconnaissance, Arnaud Lafortelle.
Oui, plus généralement, on parlait de coopération. Pour coopérer, il faut comprendre l'intention des autres, que les autres soient les robots ou que les autres soient des humains. Dans les véhicules, ce sera la même chose. Demain, il faudra essayer de comprendre l'intention des autres usagers de la route. Donc, vous voyez, je le ramène aux véhicules autonomes, c'était le sujet d'aujourd'hui. Mais cette thèse et la reconnaissance de gestes qu'elle nous apporte, avec une technique particulière de caméra de profondeur, mais il y a d'autres techniques. Et effectivement, dans cet élan de rendre les robots et les véhicules plus intelligents.
Faouzine Achachibi, sur cette reconnaissance des gestes, et aussi on peut imaginer, pourquoi pas, une nécessité de reconnaissance des gestes à l'intérieur d'un habitacle pour décrypter, pour aider précisément à l'interfaçage entre l'homme et la machine dont on parlait tout à l'heure, pour essayer de remettre au volant un conducteur qui se serait désintéressé de la route.
Oui, en général, lorsqu'on veut reconnaître les gestes, c'est aussi un petit peu pour décharger nos sens. C'est pour pouvoir effectuer automatiquement des tâches sans pour autant se déplacer, etc. Alors, c'est très intéressant d'un point de vue de l'interaction aux machines. Mais on peut également aussi envisager une reconnaissance de gestes qui se traduit par des signaux vis-à-vis de l'extérieur, pour pouvoir interagir, pour que le véhicule autonome puisse interagir avec l'environnement proche, les piétons, etc. Ça permet de donner une intention aux autres, mais aussi de recueillir, donc reconnaître les gestes d'autrui pour les traduire en tâches de navigation plus intelligentes.
Un dernier mot pour conclure cette émission, puisque je le disais, le prétexte c'est donc l'ouverture du mondial de l'auto dans 2 jours à la porte de Versailles à Paris, sur le calendrier de mise en service de ces voitures autonomes. Selon vous, quel serait un calendrier crédible? J'en ai lu plusieurs à la préparation de cette émission. On disait en 2035, 9% de la flotte, près de 100% en 2050. Arnaud de Lafortelle, vous trouvez ça crédible, vous?
Oui, en 2050, on devrait quand même en avoir beaucoup. Il y a fort à parier que le jour où le véhicule autonome fonctionne très bien, on interdise le véhicule manuel, de même que quand les accessoires de sécurité ont très bien marché, comme la ceinture de sécurité, on les a rendus obligatoires.
Fawzi Nachachibi, vous y croyez aussi, vous, à cet horizon 2050?
Oui, bien sûr que d'ici 2050, on aura fait beaucoup, beaucoup de pas en avant dans cette direction. Par contre, bon, ce qu'il faut toujours avoir en tête, que c'est le modèle économique, après tout, qui va dicter sa loi. Mm-hmm. Et donc, je pense quand même que, on l'avait dit tout à l'heure, que ça va aller de manière progressive, forcément. Et peut-être pour des applications dans des environnements privés, dans un premier temps. Peut-être que ça viendra par les transports publics, transports en commun. Mais je crois que le véhicule privé autonome sera peut-être effectivement plus vers les 2050 qu'avant.
Un peu plus loin donc que ce qui est prévu. Merci beaucoup à vous deux, Faouzi Nachachibi, Arnaud de Lafortelle. Merci également et félicitations à Eva Coupté pour sa présentation de ses travaux. Et puis le mondial de l'auto, je ne vais pas vous le redire, vous le savez maintenant, c'est à partir de samedi, porte de Versailles à Paris et jusqu'au 16 octobre. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Léo Quentin, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Céline Lozen. À la réalisation, Elisabeth Miro, et à la technique aujourd'hui, c'était Anthony Thomasson. Et demain, on va plonger dans l'histoire des sciences vue par Michel Serres, qui publie Darwin, Bonaparte et le Samaritain aux éditions du Pommier.